Et vous écoutez France Culture. J'étais un soucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand et de coton anglais, quand, avec mes haleurs, on finit ces tapages. Les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Arthur Rimbaud. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Quelles font les manettes ce soir à mauvais genre ou de quelques faits et gestes insensés survenus dans la vie tendrement impitoyable de Jean-Pierre? Quelles font en bouquet final à cette 22e saison de mauvais genre? L'équipe au quasi grand complet fera fête à l'occasion de la sortie de ses souvenirs. Tout va bien, ment. Aux éditions de l'Archipel, un des emblèmes marquants du mauvais genre, l'immense Jean-Pierre Calfon. Acteur chez Boisset, granier de fer ou rivette, comédien de théâtre et rockeur impénitent, donjouant tout azimut, fugueur de la vie et magicien au quotidien, l'homme est avec nous ce soir et nous fera l'honneur pour l'occasion d'interpréter deux chansons live accompagnées au piano par Patrick Laviosa. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le dernier mauvais genre de la saison, un mauvais genre tout à fait exceptionnel puisque nous accueillons Jean-Pierre Calfon. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir François.
Vous êtes avec...
Et les autres?
Bah oui, parce qu'il y a du monde et on va faire la tour de table.
Il y a du beau linge.
Et du beau linge, du très beau même. Donc vous êtes avec nous, je le répète, pour la sortie aux éditions L'Archipel et aux éditions Neige de Tout va bien, ment. Donc vos souvenirs, on en parlera évidemment en compagnie de toute l'équipe de Mauvais Genre. Mais je salue avant tout cela Patrick Laviosa, bonsoir. Patrick Laviosa est pianiste, on en saura un peu plus sur lui tout à l'heure. On saura où on peut l'entendre. Et en tout cas, il a eu l'amitié, on le remercie, de nous accompagner ce soir en compagnie Jean-Pierre Calfon, donc de l'accompagner lui au piano. Il y a bien sûr Jean-Pierre Dionnet, appelé Jean-Pierre K, Jean-Pierre D, comment va-t-il?
Oui, bonjour Jean-Pierre.
Voilà,
bonjour Jean-Pierre.
Il se salue. Vous vous connaissez depuis combien de temps et Jean-Pierre Calfon? Est-ce qu'on peut donner le chiffre?
Ah oui, c'est depuis ça. Une heure et 30 minutes ou 30 ans.
Vous oui, connaissez voilà, depuis... oui, c'est ça,
voilà.
Exact.
Depuis 13 heures, mais on donnera l'année, le jour, tout à l'heure. Il y a Philippe Rouillet, comment va-t-il?
Bonsoir,
voilà.
Parfait.
Il a une actualité prestigieuse, Philippe Rouillet, pour cette dernière émission. Comment?
Bah, laquelle?
Bah, je sais pas, donner la vôtre. Quelle modestie voilà, chez cet homme.
J'ai eu le plaisir d'être élu par mes pairs président du syndicat de la critique de cinéma.
Mon voilà. Dieu. Et nous, qu'allions vous dire-tu?
Eh voilà. Vous êtes la troisième personne, ça marche aussi.
Vous êtes un homme puissant.
Voilà, on va dire ça.
On peut également signaler l'actualité d'un quelqu'un qui nous est très cher.
L'actualité, c'est le Festival de La Rochelle qui commence ce soir, avec notamment parmi un programme très riche, une rétrospective d'Ario Argento, avec évidemment notre ami des mauvais genres, Jean-Baptiste Auré, qui sera là et qui présentera en avant-première son film documentaire sur Argento, Soupir dans un corridor lointain. Et si vous regrettez de ne pas être à La Rochelle dimanche pour la présentation de l'avant-première, eh bien, le film sort en salle mercredi.
Et à ne pas le rater, nous l'avons vu, Philippe, effectivement.
Et c'est très bon, c'est-à-dire
ça
que
mérite, voilà, comme on dit.
C'est la suite du documentaire qu'il avait fait en 2000. Qui se retrouve, qui est un documentaire de 45 minutes, qui se retrouve dans la première partie de ce long métrage. Et donc, en février 2019, il l'a complété avec une nouvelle partie qui est tout à fait remarquable, où on assiste, on suit Dario Argento comme une sorte de fantôme qui revient sur
l'histoire
sur
de l'Italie
vie.
Et sur sa propre histoire. Merci, Président Rouillet. Le prêt à le Maître Beer est là. Bonsoir, Maître
oui,
Beer.
Bonsoir,
une actualité, Maître Beer, pour vous?
Non, aucune actualité, ce qui est pas plus mal.
Voilà, c'est peut-être ça, la vraie actualité, la grande sagesse. Pas comme tellement, bonsoir.
Bonsoir, François. Bonsoir à tous.
Une actualité?
Non, pas pour l'instant.
Il écrit. Il est en train d'écrire.
Voilà, exactement.
Fausto Fazulo, comment va-t-il?
Bah, il va très bien. Bonsoir, François.
Une actualité. Je pose la question à tout le monde, donc préparez-vous.
Une actualité
quand même,
qui sera une recommandation, si vous me permettez.
Voilà, ça peut être aussi une recommandation.
Voilà, on parlait de Dario Argento il y a quelques instants, juste pour signaler la ressortie en salle de 4 films de Lucio Fulci en version restaurée. Perversion Story, L'Emmurée Vivante, La Longue Nuit de l'Exorcisme et Le Venin de la Peur le 17 juillet.
Voilà, donc le 3 juillet,
c'est
Argento, et après,
ça rigole pas.
Fulci, ça ne rigole pas, c'est en copie neuve. Hubert Prolongeau, qui revient de.
Soit il revient,
soit il y va. Alors c'est quoi
et
ce
qui reste. Non, l'actualité, c'est plus un un papier qui sort dans le 1 la semaine prochaine et que j'ai beaucoup aimé faire, qui était passionnant, où j'ai passé 8 jours dans un EHPAD avec une bande d'octogénaires moins pétulants que Jean-Pierre Calfon, mais extrêmement attachant quand même. Donc c'est une vision beaucoup moins catastrophique que celle qu'on donne habituellement, qui n'est traitée que par le biais de la maltraitance. Et c'est pour montrer que même si les EHPAD sont une réalité à laquelle on n'échappe pas et dont le fond n'est pas très drôle, il y a moyen de traiter autrement l'affaire.
Merci Hubert. Céline Duchesnay.
Bonsoir François.
Alors
bonsoir
tout le monde.
L'actualité, je suis souterraine en ce moment. Un livre sur les sorcières et puis une série sur les champignons en tout genre et hallucinogènes avec Laurent Polleré.
Champignons en tout genre, Jean-Pierre Calfon.
Oh, moi jamais.
C'est pure calomnie.
Aucune substance, rien du tout.
Voilà, non, ça c'est ce que raconte...
J'essaierai ça quand je serai grand.
C'est ce que racontent les gens, mais c'est impossible. Élise Lépine, bonsoir.
Bonsoir François, bonsoir tout le monde.
Vous n'allez pas vous en sortir aussi bien. Bonsoir tout le monde. Non, il faut un peu plus.
Je rappelle donc en librairie la présence de Géographie zombie, les ruines du capitalisme de Manouk Borzakian aux éditions Playlist Society que j'ai coédité. Voilà, donc si vous aimez les zombies et que vous n'aimez pas le capitalisme et que vous aimez la géographie, vous pouvez acheter ce livre qui est formidable.
Et Sixtine Audebert qui nous revient.
Qui vous revient
de droit. Un certain temps, je vous n'ai pas entendu depuis longtemps. Donc on
c'est
est...
vrai, oui, pardon.
Voilà, on attend un grand résultat. On attend
oui, tout à fait. Les résultats de l'agrégation.
Voilà, aura-t-elle ou n'aura-t-elle pas l'agrégation? Ça, c'est une véritable, un challenge.
Oui, voilà.
Monsieur Jean-Pierre.
Ici, par hasard, vous êtes breton cet été. Il y a un cabinet de curiosité incroyable à la Fondation Leclerc à Landerneau. Un des plus beaux et des plus gigantesques que j'ai vu de ma vie.
Eh bien, justement, un cabinet de curiosité, c'est un petit peu ce qui nous attire ce soir, parce que les souvenirs de Jean-Pierre Calfon ressemblent par moments à un cabinet de curiosité, de toutes les curiosités, qu'elles soient géographiques, topographiques, humaines et autres, et surtout esthétiques et poétiques. Vous êtes notre invité ce soir, Jean-Pierre Calfon, pour « Tout va bien, ment vos souvenirs » aux éditions L'Archipel Musique.
Pané, je ne suis pas né, paumé dans la rue, pas venu chez moi non plus. Malin, pas pris dans la panique, bébé béton dans une clinique. Père importé et mère papiste, planté côté colonialiste. J'étais fait pour cette bande de rock'n'roll, la malle, gypsy, la rock'n'roll band.
Alors Jean-Pierre Calfon, de quoi s'agit-il ?
Il s'agit de la chanson Gypsy's Rock'n'Roll Band, que t'as été ça a été enregistré à Londres en 1980. Voilà. Et maintenant, je la fais avec des paroles que j'ai refaites, qui sont bien meilleures, à mon avis, et puis je la chante mieux. Mais enfin, là, c'est bien quand même. Et puis derrière, je suis accompagné par des musiciens anglais qui sont violents, super.
Gypsies, Rock'n'Roll Band, Jean-Pierre Calfon et ses rythmes. Alors, en ouverture d'émission, Jean-Pierre, j'ai lu un extrait que vous citez dans vos souvenirs du bateau ivre d'Arthur Rimbaud. J'étais insoucieux de tous les équipages et les fleuves m'ont laissé descendre.
De
coton anglais. Et de coton. Mais le premier et le dernier vers du quatrain, là, j'étais insoucieux de tous les équipages et les fleuves m'ont laissé descendre où je vous laisse un petit peu les maximes qui vous guident tout au long de ces souvenirs. Et puis qui continue de vous guider aujourd'hui.
Il n'y a pas de maxime qui me guide, c'est-à-dire que je suis parti en roue libre dans la vie, et voilà, et donc je trouve que ça me correspond bien. parce que c'est le bateau ivre, donc je suis parti un peu comme un bateau ivre. Alors quand les flots sont calmes, la traversée se passe bien. Puis quand il y a la tempête, il faut subir, il faut passer à travers et en ressortir encore plus frais.
Et vous tolérez que les flots soient calmes? Parce que, à lire vos souvenirs, je pense que le flot, la bonasse, qu'on appelle la bonasse, chez les navigateurs, c'est pas trop votre affaire.
Non, mais bon, oui, il faut bien, à certains moments, quand on travaille et tout, il y a un moment où il faut se concentrer. Donc, moi, je suis dans tous les genres d'humeur, quoi. Quand je travaille, je suis très calme, je suis très concentré. Et puis, dans la vie, je peux être tout à fait tempétueux, oui.
Alors, Tout va bien, Mans, c'est le titre, on a été un peu surpris, donc, de vos souvenirs. Mais en définitive, c'est un titre qui s'impose, puisque c'est quasiment une lettre d'amour à votre mère, et à vos parents, votre sœur, votre famille, en tout cas. Et j'imagine que l'expression, quand on a eu ses souvenirs, Tout va bien, Mans, vous avez dû souvent lui dire, parce qu'elle a dû se poser la question. Est-ce que ça va bien?
Non, justement, je lui dis maintenant qu'elle est plus là, qu'elle est partie, et que, parce que quand moi j'ai fugué de chez mes parents quand j'avais 15 ans, parce que je supportais pas, ils voulaient que je devienne médecin ou avocat. Moi, je pouvais pas faire des études, j'arrivais pas à suivre, je m'en foutais complètement. Donc
Des études de dessin et de...
Après, ça c'est plus tard, mais je veux dire les études quoi.
Il n'y avait que l'anglais qui marchait un peu.
Un peu, parce que je me disais que j'allais voyager, donc que ça me servirait, mais le reste, le latin, bon... Ceci dit, maintenant, le latin, ça me sert quand même, parce que quand on a fait un peu de latin, j'étais jusqu'en troisième, j'ai pas fini la troisième, je me suis barré là. Mais quand on a fait du latin, pour la racine des mots, des fois, ça aide beaucoup. Oui, c'est assez. Ça me parle des fois. Quoi.
L'étymologie fait poésie. Ouais.
Pardon.
L'étymologie fait poésie.
Voilà, oui, c'est ça. Ouais.
Alors, Céline Duchesnay.
Ah moi j'aimerais bien
Jean-Pierre
revenir.
Jean-Pierre Calfon, un fugueur né.
Oui, j'aimerais bien revenir sur cet épisode de fugue qui m'a l'air d'être un moment complètement, où vous avez pris un vrai virage dans votre vie. Donc vous aviez 15 ans et vous avez décidé de mettre une frontière entre vous et vos parents. Et la frontière à l'époque, c'était la frontière franco-belge, puisque dans ces temps-là, on ne passait pas la frontière aussi facilement entre la France et la Belgique. Donc un épisode où vous êtes devenu une herbe folle, où vous avez vécu pleinement votre vie, jusqu'à tout de même que vous soyez rattrapé par la police et que vous fassiez un long séjour en prison et que vous finissiez...
Pas si long.
Enfin, vous avez quand même enchaîné la prison et ensuite la maison de redressement...
Centre de délinquants à Savigny-sur-Orge.
Alors quand on sort de cette expérience-là, est-ce qu'on est tout à fait le même? Vous êtes devenu un être libre à ce moment-là, en tout cas peut-être vis-à-vis de vos parents?
Oui, en tous les cas, vis-à-vis de mes parents, mais je leur ai fait beaucoup de mal. C'est pour ça que je dis tout va bien, maman, parce que ma mère, elle croyait que j'allais terminer clodo, partir comme ça, quoi.
Surtout qu'ils ne savaient pas où vous étiez.
Mais je savais pas où j'allais, et eux, ils savaient pas où j'étais, parce qu'ils me cherchaient en France, évidemment, parce qu'à l'époque, les gens qui fuguaient, ils se barraient sur la Côte d'Azur, ils se faisaient reprendre au bout de 3 jours. Moi, j'ai mis une frontière. Et pour mettre une frontière, à l'époque, il fallait une carte d'identité, au moins. Moi, j'avais pas de carte d'identité.
Vous avez trafiqué ça.
Je suis passé à pied en frontalier. Où je pouvais me faire piquer, et là je suis passé comme si j'allais travailler de l'autre côté de la machin, comme ça, comme un... Ils ont rien vu, ils m'ont pas vu passer, et alors après, bon, c'était la folie.
Et puis une carte d'identité qui n'était pas tout à fait au nom de Jean-Pierre Calfon.
C'était pas une carte d'identité, c'était une carte d'étudiant. Donc je l'ai bricolé avec une pomme de terre pour faire un seau, et ça ne ressemblait à rien, j'ai jamais eu à la montrer. La fois où je l'ai montré, ils ont compris, quand le flic m'a arrêté, ils m'ont emmené à la prison de Bruges. Donc d'abord au commissariat de Blankenberg, parce qu'il a vu que c'était une carte d'étudiant, ça lui suffisait pas. Puis après, à l'analyse, ils ont bien vu que c'était un truc bidon, quoi, voilà.
Et toujours est-il qu'après ça, quand vos parents sont venus vous chercher au centre de redressement, vous avez eu un petit peu plus de marge de manœuvre, parce que la vie était plutôt austère avant la fugue.
Bah oui, parce que ma mère était très très dure, enfin très pas dure, mais psychorigide. Voilà, mon père était plutôt marrant, mais ma mère était psychorigide, et c'est ma mère qui tenait le truc. Hein. Alors voilà, moi j'ai tout fait là-dedans, et j'ai tout fait pour plus étouffer.
Jean-Pierre Dionnet, vous avez fait une fugue, vous êtes au même âge?
Non, moi je suis le contraire, puisque je reste le mouton des oratoriens de la 9e à la terminale. Je fais des fugues dans ma tête, ça n'a rien à voir. Mais des copains fugueurs, j'en ai eu beaucoup, et c'est pile ou face. La plupart, je dirais qu'à 60%, les copains fugueurs, ils ont fait des grosses conneries, voilà. Et Jean-Pierre Calfon, il a bien réussi pour un fugueur, hein. Oui, oui, plus. Mais j'ai fait des belles conneries aussi, oui. Mais ça n'empêche pas. Mais bon, je sais pas, j'ai eu une bonne protection, j'ai quelque chose, une étoile, quoi, disons, c'est une étoile qui m'a protégé. C'est pas de ma faute, hein, je l'ai pas fait exprès de passer à travers les choses les plus hardes, parce que j'ai fait des choses très hardes, quoi. Donc, on fait pas exprès de s'en sortir, quoi. D'un seul coup, on trouve une lumière, on trouve une porte, il y a une main qui se tend, il y a un truc qui arrive et tout. Et, voilà, c'est Jean Babilet d'ailleurs qui m'a aidé à sortir.
Le danseur,
oui.
Qui vous a aidé à en sortir surtout.
Ouais, ouais. Ouais, voilà. Ouais.
On va en reparler. Alors pour ces souvenirs, vous avez eu la complicité Jean-Pierre Calfon de Philippe Reiche, qui est un éminent Christophe Beer, un éminent oui. filmographe.
Il avait fait une monographie sur Klaus Kinski il y a plus d'une trentaine d'années. Il avait aussi aidé un acteur que vous adorez, ouais. Jacques Dufilho. Il avait aidé Dufilho aussi à écrire un livre.
Je Pinter avec
Donc Dufilho. C'est ouais. Philippe Reiche, c'est quelqu'un qui visiblement aime les personnages hors normes.
Alors avec Philippe Reiche, on a donc une filmo théâtro télégraphie
c'est-à-dire que
totalement complète.
J'avais pas du tout envie de faire une biographie, moi je m'en fous, je regarde pas derrière, hein, je vais
oui,
de
alors, c'est l'impression que ça
oui. donne. Donc c'est lui qui est venu, il avait une page par film, une page par pièce, une page par musique, une page par femme, une page par voyage et il m'interviewait surtout, il enregistrait, il tapait tout. Il me l'envoyait, et c'est pour ça que je mets au début, et après moi je réécrivais le truc, et c'est pour ça que je mets au début propos recueillis par Philippe Reiche et déformés par Jean-Pierre Calfon, voilà.
Alors tous les films, toutes les pièces de théâtre, tous les téléfilms, toutes les femmes sont des moments d'aventure, des moments d'intensité, on ne va pas en une heure évidemment tous les passer en revue, on a fait un choix qui est notre choix subjectif, c'est donc notre Jean-Pierre Calfon qu'à Mauvais Gens ce soir vous allez pouvoir apprécier, du moins on l'espère, et on commence avec le concerto pour la peur 1963.
Eh bien, mon Cosaque, on a sa crise de dépression.
T'es une drôle de petite créature.
Pourquoi drôle? Parce que je te devine? Parce que pour moi, tu n'es qu'un grand méchant loup?
Tu es si jeune.
Jeune? Jeune? Tu crois qu'on peut rester jeune dans cette angoisse de tous les jours? Je voudrais pouvoir faire mon marché sans me retourner. Être sûre que tu es là quand je reviens. Aller au cinéma.
Une vie de sténodactylo, ça. Tu aurais ça, Arlette. Et peut-être davantage.
Tu crois vraiment?
Voilà, une vie de sténodactylo, tu auras ça, Arlette, ou bien davantage un extrait de La drogue du vice ou le concerto de la peur de José Benazeraf, monsieur Billard.
C'était le deuxième long métrage de José Benazeraf. On entend la musique de Chet Baker, voilà. Qu'il avait rencontré au New Morning et qu'il a invité à enregistrer presque en improvisation toute la bande-son du film. Alors, dans cette séquence, elle se termine par Jean-Pierre Calfon qui se penche sur Sylvie Bréal, cette jeune femme qui rêve de sténographie. Et on a l'impression d'un vampire. C'est un peu une scène de vampirisme. C'est un film noir très très particulier de José Benazeraf.
Avec une très belle photo d'Edmond Richard.
Edmond Richard qui venait de faire le procès de Wells et qui compose un noir et blanc
magnifique.
Très singulier qui donne au film quelque chose de fantomatique. Les personnages de ces gangsters sont un peu des gangsters à la mie de pain. Jean-Pierre Calfon joue le rôle de Sacha, un petit émigré sans envergure qui rêve de hauteur. Tous ces personnages sont des stéréotypes, mais qui deviennent comme des fantômes. Et la chose aussi qui est très forte, comme entrée en matière dans le cinéma, puisque c'est quasiment votre premier film, il y en a eu un avant qu'on
avant,
peut
oublier. Avant, il y avait Le Septième Jour de Saint-Malo, voilà. De Paul Meunier, où jouiez un prêtre.
Un prêtre, et alors...
Ça passe d'un truc à l'autre.
Oui, là. Oui. Et là, dans La drogue du vice, juste avant, il y a un plan général où vous êtes torse nu, et vous regardez Sylvie Bréal, elle-même très érotisée par Benazeraf, et vous vous approchez d'elle lentement, et je pense que ça a dû créer des frissons chez les spectateurs... du midi-minuit, où l'érotisme est toujours ambigu, même dans les films qui n'ont pas comme ça d'essence de sensualité homo-érotique, là vous entrez dans le monde du cinéma en tant qu'icône sensuelle et assez ambiguë, étrange, et avec une fragilité aussi qu'on trouvera tout au long de votre carrière dans un certain nombre de films.
Jean-Pierre Calfon.
Oh, je ne sais pas quoi dire. Moi, je me vois pas de l'extérieur. C'est vous qui me voyez de l'extérieur, donc je peux pas me juger. Je sais pas. Moi, j'avance. Je fais ce que je peux.
Oui, c'est la fragilité, je trouve, que Benazeraf a su ressentir ou vous donner à jouer dans ce film.
Possible, c'est possible.
Et quel souvenir vous avez de ce film?
Oh ben, c'était intéressant pour moi parce que c'était le premier vrai rôle, quoi, quand même. Donc, puis un rôle de voyou. Moi, comme je sortais de tôle et tout ça, je veux dire, j'étais un peu dans un univers qui ne pouvait pas me déplaire. Et comme j'ai toujours aimé les séries noires et tous ces trucs-là, les grands films noirs américains ou même français, j'étais content. Puis la musique de Chet Baker. Tout ça, il y a une image, cette belle image en noir et blanc d'Edmond Richard aussi, ça relie à Orson Welles, une de mes idoles, je veux dire. Donc,
vous avez des très beaux plans, effectivement, en courte focale, qui font penser parfois à Monsieur Arcadine ou même Le Procès. Ça devait être des idées d'Edmond Richard qui soutenait le propos de Benazeraf.
C'est vieux, oui. Hein, je peux pas me rappeler. J'étais un peu innocent là, quand même.
Vous apparaissiez dans le cadre là, c'était votre deuxième film.
Oui, c'est ça.
Élise Lépine.
Vous parliez d'une bonne étoile tout à l'heure, mais en fait, c'est un peu la fiction qui vous a sauvé de la réalité finalement avec ces rôles de gangster à la sortie de la prison.
Tout à fait, puisque j'étais pas capable d'être un vrai voyou, j'ai préféré le jouer. C'était moins risqué.
Philippe Rouillet.
Ce qui est intéressant, c'est que vous avez commencé avec un rôle de curé et vous avez joué assez souvent des curés finalement.
Plusieurs fois, oui.
C'est assez marrant parce que quand on regarde votre filmographie, c'est le gangster et le curé.
Oui.
Ça peut être un autre titre pour les souvenirs.
Il y avait la maman et la putain. Il y a le curé et le voyou, c'est ça, oui.
Jean-Pierre Dionnet.
Oui, moi, ce qui m'étonne toujours chez Jean-Pierre Calfon et qu'on a beaucoup dans les acteurs américains, j'ai une certaine génération comme Richard Widmark, c'est que des fois il est un franc salaud, mais il a quand même des côtés sympathiques dans le regard ou dans la voix. Des fois il est un personnage sympathique, mais il est quand même inquiétant. C'est-à-dire, je trouve que ce qu'aimait Jean-Pierre Calfon est parfois en contradiction avec le personnage qu'il joue. Il pourrait étrangler avec amour, tout comme il peut être quelqu'un à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, mais à qui on n'a pas envie de tourner le dos. C'est pas qu'il aimait pas de sens, il aimait un double sens, à la fois un feu rouge et un feu vert, souvent. Ce qui, pour moi, est un compliment. C'est-à-dire que parfois, quel que soit le personnage, il émet des ondes, mais qui deviennent un peu folles, qui passent du rouge au vert, lors même que le rôle paraît simple, il le rend compliqué. On ne sait pas si on a peur ou si on a envie de l'avoir comme ami.
Pas comme tellement, vous partagez l'analyse de Jean-Pierre.
C'est des personnages qui présentent des signaux contradictoires. Et c'est très beau ça, c'est-à-dire que même sur un rôle pas ambigu, on découvre de l'ambiguïté. Enfin, ça crée une zone d'ambiguïté. Et j'ajouterais, c'est des personnages, à part ceux dont je vais parler, l'amour fou par exemple, où c'est un personnage qui est quand même beaucoup plus entier, mais c'est des personnages qui nous rassurent, enfin on est très heureux de les voir dans un film, on peut en regarder pendant des heures dans un film. Dans la réalité, on avance avec des...
Jean-Pierre Calfon, vous êtes conscient de ça, d'envoyer des signaux troubles, des signaux doubles?
Ben non, je ne suis pas conscient de ça, moi j'avance, je fais ce que je peux, voilà, vous savez c'est comme ça hein, quand même. Dans la vie, on fait ce qu'on peut. On essaye de faire au mieux d'après ce qu'on vous donne, le rôle qu'on vous donne, comment on vous cadre, les partenaires qu'on vous donne, le scénario, le dialogue et tout ça. Et après, on essaye de faire avec ce qu'on sent, quoi. Parce que moi, j'ai pas pris vraiment de cours d'acteur. Donc, c'est pas tellement sur l'acteur que les gens sont venus chercher chez moi. C'est plutôt la personne, une personne, j'ai l'impression, quoi. Ouais.
Alors, un curé, un voyou et en 1967, une idole.
écouter la complainte, brage au public aimé de Charlie et Gigi. Par vous délaissé, Charlie le surineur seul se vit un nom de même. Gigi la folle atteignit ton renom.
Voilà un extrait des Idoles de Marco, 1967, Céline Duchesnet, tournant dans la courbe de vie et la trajectoire du météore Jean-Pierre Calfon.
Oui, parce que ça a commencé avec une sorte de pièce de théâtre. Je ne sais pas si on peut appeler ça une pièce de théâtre, un happening. Un happening, mais en tout cas avec une part musicale absolument extraordinaire. Et c'est, je ne sais pas si on pourrait résumer rapidement en quelques mots, mais c'est une manière de démontrer aussi que les idoles, ça montre aussi bien l'ascension d'une idole que la chute d'une idole et comment le système peut transformer un chanteur en un Kleenex jetable.
Voilà. Oui, oui. Comment on fabrique certaines idoles et dès qu'ils vendent plus, ben on les jette comme vous dites, comme des Kleenex.
Moi, quoi. J'aimerais bien que vous nous racontiez aussi comment est-ce que vous étiez sur scène, parce que alors il y a un film, mais il y a aussi une manière de se positionner, une manière de danser, une manière d'être physiquement sur place, et puis des tenues absolument extraordinaires.
Ah, et puis il y a cette fameuse scène où vous imitez différentes expressions faciales, en 2 minutes, vous changez de registre en 60 fois, qui est assez incroyable.
Oui, c'est Marco qui m'avait donné cette qui avait écrit le texte que je suis, mais que j'interprète physiquement aussi, c'est-à-dire toutes les expressions qu'on demande aux idoles de prendre,
de poser en fait la pose,
les poses, les poses, le gentil, le pas gentil, le salopard, le sexy, le pas sexy, le n'importe quoi. Et alors dans ce qu'il y avait de bien là, ce qu'il y avait de formidable au théâtre, quand on a joué, au théâtre, c'était que le public était là en direct et ça me faisait monter, moi. Plus j'avançais, plus je montais, plus je montais, plus je montais dans le truc. Et à la fin, c'était un délire complet. Tandis que au cinéma, c'est pas pareil. Vous répétez, il y a des figurants qui sont là, ils regardent le truc, au bout de 2 minutes, ils en ont marre. Ils l'ont vu, ils ont compris. Et après, il faut le refaire une fois, deux fois, trois fois. Et il y a pas cette espèce de folie que vous apporte le public quoi, quand c'est en direct au théâtre.
Voilà, ambiance sonore, ambiance de scène avec Pierre Clémenti et Bulogier. Impression, souvenir, Jean-Pierre Calfon.
Merveilleux. Je voulais que je vous dise, c'est d'un seul coup, on vous donne des rôles extraordinaires avec des chansons, de la musique, de la bonne musique rock composée par Patrick Grosset et Stéphane Villard. C'est le bonheur, quoi. Il y a quand même. Et puis en plus, avec des amis. Pierre était un ami. C'est moi qui l'ai fait monter pour la première fois sur scène, dans une mise en scène que je faisais. Bulle, je l'avais vu au théâtre avec Marco. C'était un personnage extraordinaire. D'une beauté, d'une précision et d'une finesse extraordinaire. Pierre était un animal sauvage aussi. Donc, c'est vraiment proches, c'est des frères et des sœurs, des gens comme ça. C'est autre chose que des acteurs, quoi. C'est pas à ce niveau-là que ça se passe.
L'impression que j'ai, c'est que très souvent, comme vous dites vous-même, vous êtes un peu laissé porter par le courant, les rencontres. Votre carrière est très marquée par les rencontres et les personnages que vous avez faits. Peut-être qu'on retiendra toutes ces étoiles que vous avez croisées. Pierre Clémenti, Bulogier, c'en est des...
Alors justement, j'aimerais que vous nous parliez de Pierre Clémenti, vous lui consacrez 3 longues pages dans ses souvenirs, Jean-Pierre Calfon, et pour vous, c'est vraiment ce qu'on appelle pour d'autres le jumeau stellaire, c'est-à-dire le double, une sorte de fraternité spontanée.
Bah oui, parce que quand on s'est rencontrés, il m'avait parlé qu'il avait été lui aussi à Savigny-sur-Orge, de délinquant, donc déjà ça crée...
Ça crée des liens, oui.
Ça crée des liens.
c'est quand même assez fort, ça. Mais, et il m'a fait confiance. Moi, je lui ai fait confiance aussi. Il n'était jamais monté sur une scène. Il m'a fait confiance pour que je le dirige. J'avais jamais fait ici. J'avais monté une pièce avant, mais je m'étais improvisé, metteur en scène. Je savais pas faire grand chose. Mais j'avais la passion. J'avais l'envie qu'on a quand on est jeune de réussir et de montrer à ses parents, à sa mère, qu'ils ont eu tort de pas me faire confiance et de me laisser faire. Ça m'a obligé à faire tout seul, le dos au mur et d'avancer, quoi. Mais j'étais quand même dos au mur, voilà.
C'est un peu une famille, bonjour. On a l'impression, dont vous nous parlez plus que d'un plateau, plus que de... Il y en a eu d'autres dans votre vie artistique, des familles comme ça que vous avez rencontrées, comme celles que formaient Clémenti, Augier, Rivette?
Pas vraiment, non. Enfin, dans la musique, oui, j'ai rencontré des gens dont j'ai été très proche. Paul Ives, qui a composé beaucoup de musique. Boris Berman aussi. J'ai été assez proche de lui. Puis j'ai rencontré des gens, je veux dire, mais dans les films, c'est comme ça.
Hein, il y a eu la bande à Lelouch au début, à l'époque.
Oui, mais bon, c'était, oui, il y a eu une espèce de famille comme ça, mais qu'il a vite cassé le truc, Lelouch, parce qu'on a fait un deuxième film derrière Une fille et des fusils, et il l'a pas sorti, donc, parce qu'il a préféré sortir, il avait peur que ça fasse de l'ombre à un homme et une femme, parce que c'était beaucoup plus...
libre.
Libre comme film, oui, plus délirant, et il l'a pas sorti, donc ça a cassé l'ambiance, quoi, quand même, quelque part. Voilà, je sais pas.
Alors, parmi les aspects de Jean-Pierre Calfon qui vous ont marqué, dont vous a souhaité parler ce soir, Jean-Pierre Dionnet, il y a la voix. Alors justement, on va l'entendre, la voix de Jean-Pierre Calfon, puisqu'il a fait il nous a fait l'amitié et la gentillesse de vouloir interpréter deux chansons ce soir en direct à Mauvais Genre. Donc, Maestro, bah on va commencer par la première chanson,
Meuf. Ah d'accord, ok.
Voilà. Bon, que La Meuf s'apprête...
Les meufs,
parfois.
Vont aussi faire le
voilà,
les meufs vont faire le cœur, et les mecs également.
Gagner le micro, merci. Jean-Pierre. Et pendant ce temps-là, l'autre Jean-Pierre va nous évoquer justement la voix de Jean-Pierre Calfon. Qu'est-ce qu'elle a, cette voix qu'on va entendre dans quelques minutes?
La voix de Jean-Pierre Calfon, c'est un timbre. C'est-à-dire que il peut jouer des personnages excessifs. Il peut jouer des personnages calmes. Il a toujours ce timbre que moi, j'associais jusqu'à lui au cinéma d'avant-guerre. Lui qui est un moderne pourtant, c'est-à-dire à la génération Saturnin Fabre, Jean Tissier qui avait des timbres...
Jean Tissier avec qui il a joué, dont il parle joliment.
Jean Tissier avec qui il a joué. Ensuite, il y a eu la fameuse bande qu'on appelait du conservatoire, les Rochefort, les Marielle et tout ça. Mais ils avaient, disons, dans leur voix... une espèce de bonhomie, hein, une espèce de belle voix, mais fréquentable. La voix de Calfon, c'est un peu comme celle de Johnny Cash. C'est un timbre particulier, mais qui a une certaine sécheresse, une certaine dureté, et qui fait que même quand il plaisante, sa voix, c'est un compliment, n'est pas agréable. Elle est ensorcelante. C'est un peu comme George Sanders quand il fait K.A. dans Le Livre de la Jungle. C'est une voix de quelqu'un qu'on a effectivement envie d'entendre ou de voir au cinéma, pas forcément de quelqu'un dont on a envie qu'il vous tape sur l'épaule et vous dise « Bonjour !» parce qu'on va se retourner un peu inquiet.
La voix de Jean-Pierre Calfon en direct sur France Culture, Mauvais Genre.
Barman était tendu, la bière sous pression, sa castagne des beaux quartiers et jusqu'à la nation. Elle est grande la nation, et toi tu t'en foutais un peu, tu te postais pour la mat, tu ziotais la meuf du deuxième réverbère à droite. La meuf du deuxième réverbère à droite. La meuf du deuxième réverbère à droite. La meuf. Elle peut pas se faire le jour, elle peut plus se faire le soir. Alors elle se fait le trottoir. Et pour 150 pesos, t'as pas besoin de ton charme. Tu prends content ou tu te consoles en faisant crier « Hey, ta bécane !» Au deuxième réverbère à droite, la meuf. Du deuxième réverbère à droite, la meuf. Elle me regarde jamais partir, elle me la joue transat, la meuf du deuxième réverbère à droite. J'aurais voulu la signer, j'aurais voulu lui dire, qui sait même la faire chialer sur le clou de mon cuir. Ça m'aurait fait mal, mal, ça me couperait les pattes. Devant la meuf du deuxième réverbère, à droite.
Deuxième réverbère à droite.
La meuf du deuxième réverbère à droite. La meuf.
La meuf accompagnée au piano par Patrick Laviosa. Bonsoir, qu'on vous entende un
peu. C'est une chanson de Boris Bergman et Roland Boquet.
Qu'on salue également Boris Bergman, oui, puisqu'il a été notre invité en compagnie de Jean-Pierre Dionnet.
Ah oui, d'accord.
Patrick Laviosa, alors quelques mots. Là, accompagné Jean-Pierre Calfon, pour vous, ça représente...
Pour moi, c'est un grand plaisir. C'est une bonne surprise, déjà, parce que Jean-Pierre Calfon, pour quelqu'un de mon âge, pour quelqu'un de notre âge, on est plusieurs à avoir à peu près le même âge. C'est quelqu'un qui a toujours fait partie du panorama audiovisuel. On l'a toujours vu au cinéma et surtout à la télévision aussi, parce que je suis quelqu'un de la télévision et on t'a beaucoup vu à la télévision. Donc voilà, c'était une bonne surprise, un plaisir. Je savais pas qu'il chantait, je savais pas qu'il faisait des chansons, je savais pas. Ben j'ai découvert tout ça.
Ouais. Et nous, on a découvert aussi nos talents de choriste. En tout cas, merci.
On va continuer d'exploiter.
Merci à tous.
Merci à tous pour les jolis cœurs.
On pourrait éventuellement entamer
le tour. Vous avez fait les jolis cœurs.
Les jolis cœurs. Alors, Benazeraf, Marco, maintenant on passe à troisième temps, troisième tournant, au troisième volet, facette, tout ce qu'on voudra de votre parcours. Jean-Pierre Calfon, Jacques Rivette, L'amour fou.
Tu veux faire la veste, s'il te plaît? Tu veux appeler la veste, téléphoner pour le matin 10h, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe?
Alors Jean-Pierre, souvenir de L'amour fou, avec Bulogier.
Souvenir de découvrir une nouvelle forme de cinéma, oui. Parce que là, par exemple... C'est un film qui dure 4h15 et Rivette nous avait donné 7 pages de scénario. En fait, c'était sur ces 7 pages, il y avait un nombre de séquences et dans chaque séquence, il y avait le but de la séquence. Quoi. Et après, on arrivait le matin sur le plateau et il fallait toujours qu'on crée notre dialogue par rapport à ce qui était désiré, par rapport au but de la scène. Et en plus, il m'a laissé la liberté de diriger les acteurs, de les choisir aussi pour quand je monte la pièce Andromaque. Bon, c'était un peu difficile pour moi de monter Andromaque parce que je connais pas trop le théâtre classique, mais c'était quand même.
Mais t'es habitué des tragédies, pourtant Hamlet.
Non, Macbeth.
Macbeth.
Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Puis j'avais pas joué Macbeth encore à l'époque. Oui. C'est plus tard que j'ai joué Macbeth. Ça, c'était une histoire fascinante aussi pour moi. Une grande rencontre avec le grand William Shakespeare, comme je l'appelle Guillaume Secoupoir.
Je vais te remettre.
peux pas t'inquiéter pour moi, tu sais, je t'assure. C'est la seule chose à faire. Il le faut. Il le faut.
Il ne faut pas.
Il le faut.
C'est une scène, Jean-Pierre Calfon, où découpez au ciseau vos couteaux, vos,
ah,
vos
oui.
vêtements.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est...
Pourquoi ?
Ah, pourquoi ? Bah, parce que c'est de la séparation, c'est l'histoire de la séparation que Sébastien, qui a, en fait, qui a complètement oublié son histoire d'amour avec,
Claire.
Claire. Et comme il l'a complètement oublié, d'un seul coup, elle veut se barrer. Et évidemment, au moment où elle veut se barrer, lui, il est mal. Et il veut pas, et il essaye à tout prix de rattraper l'affaire, mais c'est irrattrapable finalement. Et donc à ce moment, il se mutile un peu, il se mutile en déchirant ses vêtements, et voilà. C'est, il avait trouvé ça dans une scène, je sais pas, je me souviens plus de qui. C'était une idée d'une scène que quelqu'un avait fait dans la vie, quoi. D'autres, quelqu'un d'autre. Je me demande si c'est pas Godard. Non, c'est pas Godard.
Pas comme tellement. Le Rivettien de, ouais. de of the Group.
Le Rivettien of the Band.
The Band.
C'est vrai. Ce film, c'est une sorte de révolution hein, par rapport à ce qu'on peut entendre du cinéma. C'est clair parce que on a à la fois les répétitions qui sont tournées, je crois, en 16 mm par Étienne Becker. Vous répétez, vous faites la mise en scène de Andromaque et à côté le film, en fait, le film double quoi. Le film double. Il y a la destruction de cette relation, cet amour fou et qui est désespéré et qui se développe. Mais j'ai une question. La pièce Andromaque, oui. dedans, qui est jouée, elle est jouée avec deux actrices noires.
Oui.
Ce qui est magnifique. C'est une idée à vous.
Oui, c'est une idée à moi. Ah. C'est une idée à moi parce que je m'étais dit, on est en noir et blanc, c'est les captives. Les captives à l'image, on va voir tout de suite que ce sont des étrangères si elles sont blacks. Mmh. C'est-à-dire que c'est graphiquement... ça y est, c'est donné. Il n'y a pas besoin d'expliquer rien du tout. Elles apparaissent, elles sont les étrangères.
Parce qu'il y a, on pense à deux choses. Au Macbeth de Orson Welles, joué avec des acteurs noirs.
Ouais.
Vous parliez de votre admiration de Welles. Et puis, bon, c'est Macbeth. Le Macbeth, je pardonne. Et aussi, à Shadows de Cassavetes. Et oui. c'est le fait de faire venir, enfin, grosso modo, c'est nouveau à ce moment-là. Presque dans le cinéma français, c'est très nouveau.
Et d'ailleurs, je vais vous dire, j'ai dû passer un examen de passage devant le producteur qui se demandait qu'est-ce que j'avais comme idée derrière la tête d'employer des noirs pour jouer dans une tragédie de Racine, quoi. Et il pensait que j'avais des trucs délirants. Non, moi, c'était ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire c'est graphique. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'expliquer rien du tout. On voit, au milieu de tout, c'est blanc, on voit deux noirs, ça y est, on sait que c'est... On sait qu'elles viennent d'ailleurs, quoi. C'est des ovnis dans ce truc-là. Et elles sont en plus, disons qu'elles sont prisonnières de Pyrrhus. Et puisque Pyrrhus a tué Hector. Hein, et il est amoureux d'Andromaque. Mais bon, voilà, c'est la tragédie. Et c'est comme Oreste est amoureux d'Hermione, qui elle est amoureuse de Pyrrhus. Hein, c'est les chassés croisés, quoi.
Et puis, vous allez retrouver Rivette 15 ans plus tard pour L'amour par terre.
Ouais.
C'est étonnant parce que les deux films sont... Les deux ont l'amour dans le titre, évidemment, et c'est les seuls de la filmographie de Rivette. Et vous êtes le personnage masculin principal. Et c'est assez rare. Le cinéma de Rivette est surtout un cinéma avec des personnages féminins principaux. Et vous jouez de nouveau un metteur en scène. Mais un metteur en scène beaucoup plus étrange, beaucoup plus trouble. Clément Roquemort.
Oui.
Et dans votre biographie, vous racontez une très jolie anecdote concernant Géraldine Chaplin. Parce que dedans, le personnage a une intrigue amoureuse avec un personnage joué par Géraldine Chaplin, qui s'appelle Emily. Et vous avez une très belle anecdote sur Géraldine Chaplin, qui est la fille de Charles Chaplin, mais qui est dans la rue, qui est abordée dans la rue.
Vous voulez que je la dise?
Oui, si vous n'avez pas envie.
Ah oui,
mais si vous voulez la dire, vous.
Non.
Géraldine se promène dans la rue, je ne sais pas où, en Espagne peut-être et tout, puis il y a deux,
deux filles qu'il arrête. Elle est avec une copine. Il y a deux filles qu'il arrête pour lui demander un autographe. Et la copine de la fille qui demande l'autographe, elle dit c'est qui. Et celle qui demande l'autographe, elle dit c'est la fille. Alors elle est hardie.
Alors l'amour fou, donc c'était quelle année, pas actuellement l'amour
c'est
fou.
C'est 68.
Ah non, 68.
67, 68.
Mais non, 67, c'est une année californienne. Je vois l'amour fou, les idoles, week-end et les oiseaux vont mourir au Pérou.
Oui.
C'est quand même pas mal.
Romain Gary, quand même.
Voilà.
Et le film a complètement disparu de la circulation. Et là, on vient de le retrouver. Une copie, quelqu'un a racheté une copie, a fait des DVD remasterisés. Et on va la passer au moment de...
Voilà, puisqu'on reviendra sur les détails, mais il y a une rétrospective Jean-Pierre Calfon au mois de septembre à Paris, à la Cinémathèque. Alors on évoquait l'homme trouble, l'homme inquiétant, celui qui envoie des signaux contradictoires simultanément, le personnage qu'on n'aime pas avoir dans son dos, avec qui on n'aime pas copiner, on est un peu angoissé. Bah, il y a quand même un film où la dimension inquiétante de Jean-Pierre K apparaît totalement, c'est dans Une étrange affaire de Pierre Granier-Defer.
Mais t'as combien de pièces?
Celle-là, l'autre, 60 mètres carrés en tout.
Non, t'es sûr? Avec les balcons, alors.
Alors Philippe Rouillet, il y a un grand film sur le diable et ses anges, puisque là, Michel Piccoli, qui vient sauver un grand magasin,
avec
le diable, et puis les deux anges, Jean-François Balmer et notre ami Jean-Pierre Calfon.
Oui, qui sous le nom de François arrive, et là il débarque chez le personnage Gérard Lanvin, qui s'appelle Louis, Louis Colline, et vous entendez, il est comme chez lui, c'est qu'est-ce que vous buvez, etc., alors qu'il n'est pas du tout chez lui, qu'il se sert un scotch, et le film, c'est exactement ce que racontait Jean-Pierre Dionnet tout à l'heure sur le personnage de Jean-Pierre Calfon, c'est-à-dire le côté complètement contradictoire. D'un côté, le personnage paraît terriblement sympathique.
Le pote, c'est le pote.
Et en même temps, terriblement cruel et angoissant. Et du coup, c'est une déclinaison formidable en miroir du personnage de Michel Piccoli, qui est le grand ordonnateur de tout ça, ce Bertrand Mahler qui semble tout orchestré, et voilà, et Jean-Pierre Calfon paraît son âme damnée. Alors ce qui est très singulier dans ce film, c'est qu'il est réalisé par Pierre Granier-Defer. On est donc en 1981, à une époque où Pierre Granier-Defer, il s'apprête à faire L'Étoile du Nord avec Simone Signoret d'après Simenon. Alors vous allez me dire Simenon, Jean-Marc Roberts, puisque c'est tiré de Affaires étrangères de Jean-Marc Roberts, c'est pas si loin. C'est beaucoup plus vénéneux en fait, c'est beaucoup plus malaisant que chez Simenon. Et alors, est-ce que vous saviez qu'en fait ce personnage avait été écrit pour Francis Huster? Votre personnage.
Ah non, ce n'est pas ça.
Et moi, j'ai appris ça et je suis tombé de ma chaise parce que c'est pas du tout pour Francis Huster, ce personnage.
Mais c'est tout à fait pour Jean-Pierre Calfon.
Mais voilà, c'est une chance que c'est pas pu se faire parce que c'est une chance
pour moi aussi parce que c'est un beau rôle. Oui.
Alors justement, Jean-Pierre Calfon, comment fait-on? Alors là, vous demandez vos secrets qu'on ne livre pas d'habitude. Mais comment fait-on justement pour incarner ce personnage qui est perfidement sympathique? Ou perversement gentil.
Faut faire semblant d'être sympa. Oui, il faut y aller avec le sourire, la bonne humeur, l'élégance, tout ça. Alors que derrière, c'est complètement naze. J'appelle ce film Les vampires sans les dents. Moi, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on vient chez Gérard Lanvin et Nathalie Baye, Piccoli, Balmer et moi, et on ruine leur vie, quoi. On vient ruiner leur vie. On leur bouffe le sang, mais sans les dents. C'est-à-dire que on les déshumanise, désincarne.
Et ce qui est assez formidable dans cette tradition du cinéma français, c'est qu'il n'y a pas de happy end. C'est-à-dire que c'est un vrai film de vampire. Ils ont été vampirisés, c'est salut, quoi. C'est, et ça, c'est quelque chose qui en fait un film assez extraordinaire.
Après moi, le déluge.
Exactement.
Oui, d'autant plus que quand Piccoli a vidé de sa substance la société qu'on lui a confiée, ou on l'a redressée, on ne sait pas très bien, il passe à une autre comme un vampire.
Il disparaît.
D'un corps à un autre.
Et ça, c'est l'idée du traitement cinématographique. C'est que quand il n'est pas là, on ne sait pas où il est localisé. C'est-à-dire que quand le personnage quitte le film, on ne sait pas où il est parti.
Même nous.
On évoquait à l'ouverture d'émission Jean-Baptiste Rey dans sa collection Make My Day, il sort en septembre, Canicule d'Yves Boisset. Alors vous, c'est votre Calfon, Fausto?
C'est mon Calfon de cœur.
C'est votre Calfon préféré?
Absolument. Et c'est votre troisième film avec Yves Boisset, Monsieur Calfon.
Oui.
Il y a eu Allons enfants, il y a eu La femme flic. On retrouve Miu Miu dans La femme flic et aussi dans Canicule, qui a le casting le plus singulier et all-star, je pense, j'irais pas jusqu'à dire de l'histoire du cinéma français, mais le casting c'est quand même quelque chose. Et puis surtout, dans le livre, vous faites référence à un accident sur lequel vous ne revenez pas trop, mais on sent que vous avez quand même eu mal à ce moment-là. C'est quand Lee Marvin vous tire dessus, en fait, et que vous expliquez que la détonation a provoqué votre chute et que Yves Boisset s'est excusé de manière un petit peu hypocrite en rigolant. Du coup, moi, ce que je voulais savoir, c'était comment ça se passait de travailler avec Yves Boisset et quel type de metteur en scène c'était, surtout sur un film comme Canicule, qui était quand même un projet assez compliqué, assez lourd. Comment ça s'est passé, votre expérience sur ce tournage-là?
Moi, je me suis toujours très bien entendu avec Yves. C'est-à-dire que j'aime bien les metteurs en scène qui me confient un rôle et qui me laissent me débrouiller avec le truc, quoi. Alors, de temps en temps, il vous dit un peu plus ci, un peu plus ça. Les bons metteurs en scène, c'est ça, hein. C'est pas... On dirige pas. Il y a quelqu'un qui disait, je crois que c'est Jean Renoir qui disait, la direction d'acteur, c'est choisir les bons acteurs. C'est-à-dire les acteurs qui conviennent au rôle. Parce que s'ils conviennent pas au rôle, vous pouvez expliquer tout ce que vous voulez à quelqu'un. Il y arrivera pas, quoi. Donc il faut qu'il y ait le feeling avec un personnage. Et c'est ça, moi, il m'a toujours filé des trucs, Yves, dans les trois films que j'ai fait avec lui, il m'a toujours filé des trucs, où je me glissais là-dedans, comme ça. Et alors quand même, en plus, il m'a donné l'occasion de travailler, de jouer avec Lee Marvin. Excusez-moi du pneu, mais c'est Lee Marvin, quoi. Et en plus, prendre une balle dans le genou par Lee Marvin, c'est une décoration. C'est le summum. C'est la Légion d'honneur, quoi. Lee Marvin qui jouait avec Brando dans L'équipe est sauvage, hein, The Wild One.
Alors, je vais prendre une balle dans le genou
films aussi, oui.
De Lee Marvin, c'est une décoration. Et jouer du piano avec Jean-Pierre Calfon également, c'est le cas ce soir de Patrick Laviosa. Deuxième chanson, monsieur Jean-Pierre.
D'accord.
Alors là, vous allez aller au piano, donc oui. Vous allez jouer à
C'est une chanson. C'est une chanson que j'ai connue par B.B. King et Eric Clapton, une chanson de Charles Singleton. Help the poor, et moi j'ai adapté plutôt, et ça s'appelle Es-tu pour ? Help the poor, es-tu pour ?
On vous écoute.
Es-tu pour partager ma vie ? Voudras-tu avec moi relever ce défi? Bébé seul, j'ai le cœur qui déraille, le désespoir qui revient, qui m'assaille. Es-tu pour prendre le pari? Dis-moi oui, et je suis ton homme. Je n'ai pas changé d'avis. C'est toi ou personne. Délivre-moi, ne fais pas marche arrière. J'ai déjà trop connu le désert. Es-tu pour prendre mon parti? Avec toi, tout me passionne. Toi du matin au soir, à chaque cœur qui m'étonne. Quand tu restes enfermé dans ta tour, m'entends-tu crier au secours? Hey, es-tu pour gagner cette partie? Tu penses que t'es sur moi, de jour comme de nuit. Ne renonce pas, je perdrai mes repères. Loin de toi, je vivrai un enfer. Es-tu pour? Ah, tu me l'as promis.
sans toi, la joie m'abandonne. Il n'y a plus que le vide qui résonne. Si tu restes enfermé dans ta tour, qui m'entendra crier au secours? Hey, tu pourrais partager l'envie. Tu pourras compter sur moi. De jour comme de nuit, délivre-moi, ne fais pas marche arrière. J'ai déjà trop connu le désert. Et tu pourras, bébé, enfin me dire oui.
La Viola et Jean-Pierre Calfon, pendant que Jean-Pierre se rejoint de nouveau.
Je me suis planté un peu.
Mais non. Dites-nous, Patrick Laviosa, où on peut vous entendre en ce moment.
Je me suis un peu trompé.
Non, absolument, vous ne vous trompez pas.
Si, je me suis trompé dans les paroles.
On n'a rien vu. On n'a rien entendu.
J'ai pas l'habitude de jouer du piano et de chanter en même temps. J'ai des musiciens.
Et j'ai donc dans celui-là.
Oui, Patrick Laviosa, dites-nous vite.
Ah, j'ai une actualité, je vais dire voilà. En deux mots. On peut me voir, moi ainsi que mes camarades, les 5 de cœur, qui sont un groupe vocal d'humour musical, des espèces de clowns de la voix acrobate complètement fous, au Théâtre de Paris. Tous les soirs à 20h30 et le dimanche à 15h, dans un spectacle qui s'appelle « Oh la belle vie ». C'est à ne pas rater. Si vous devez voir un seul spectacle cet été, c'est celui-là.
Voilà, tous les renseignements sur le site de Mauvais Genre, France Culture. Il y a quelqu'un également dont on peut parler, puisqu'il y a plein des figures comme ça qui apparaissent dans « Tout va bien, maman », vos souvenirs, Jean-Pierre Calfon, aux éditions L'Archipel. Bon, il y a effectivement Pierre Clémenti, Bulogier. Et il y a Alain Cuny qui voulait s'adonner au hachiche.
Oui, c'est ça.
Et puis aussi Patrick Devers.
Oui, Patrick, que j'avais connu d'ailleurs aussi chez Coluche.
1000 milliards de dollars.
Et que j'ai retrouvé sur mes 1000 milliards de dollars, oui. C'était quelqu'un d'assez fabuleux aussi, très poétique, très, très fragile. Et je me rappelle que quand j'étais arrivé sur le film, on avait 3 scènes ensemble. Des longues scènes où il y avait beaucoup de dialogues. Alors, j'avais dit, t'as vu le dialogue qu'il y a là-dedans ? Il me dit, ouais, ce film-là, on pourra le faire au cinéma, après à la télé, puis après, on pourra le passer à la radio.
Et ce qu'on entend en ce moment à la radio, c'est...
Championne,
c'est Calfon 2019.
Oui.
On peut vous entendre bientôt, Jean-Pierre ?
Oui, c'est à Colmar. Hein,
Colmar.
Mais je vais faire, quand on va faire la rétrospective à la Cinémathèque, je vais faire trois chansons.
On le répète, on le répétera une nouvelle fois, 2-3 fois, rétrospective Jean-Pierre Calfon, en mi-septembre à la Cinémathèque, donc à Paris.
Du 11 septembre au 16.
Merci Jean-Pierre Calfon d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre pour cette dernière émission de la saison. Je recommande bien sûr ses souvenirs, Tout va bien maintenant, c'est aux éditions de l'Archipel. Et puis merci aux auditrices et aux auditeurs qui toute cette année nous ont été fidèles, infidèles et qui en d'une certaine façon ont été ceux qui font cette émission depuis 22 ans. Maintenant l'équipe de Mauvais Genre au grand complet, Laurent Polleret, oui il est là, je le salue. Laurent, Alain Joubert, Siam Boutata, que je salue, Claire Martin-Dugard, Céline Duchesnet, Sixtine Audebert, Élise Lépine, Philippe Rouillet, Christophe Bire, Jean-Pierre Dionnet, Fausto Fazulo, Hubert Prolongeau, François Angelier, vous salue, vous remercie, et pas comptiellement, il y a toujours quelqu'un qu'on oublie, c'est une malédiction. Bon, merci donc d'avoir suivi cette émission. Au piano, c'était donc Patrick Laviosa, les informations sur donc son actualité sur notre site. Et comme à Mauvais Genre, nous sommes affamés d'harmonie et soucieux de symétrie, nous terminons cette saison avec les mémoires de Jean-Pierre Calfon et nous commentons la future saison le 30 août avec d'autres mémoires de Jean-Pierre Dionnet. C'est pas la symétrie, ça.
Eh oui, cher François Angelier, car on oublie toujours François Angelier, sans qui nous n'aurons pas plus d'eau avec Jean-Pierre Calfon et sans qui, peut-être, je ne pourrais pas parler de mes mémoires. À la rentrée. Merci encore, François Angelier, d'avoir été là ce soir, comme vous l'êtes depuis 22 ans, toujours fidèle.
Merci Jean-Pierre, merci à toutes, merci à tous, et bonnes vacances, bien évidemment. Thank you.
Thank you.